manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande! Au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect. Au programme de cette émission, deux invités. Nous recevons tout d'abord Grégor Pupinck, le directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice, qui vient de publier « La promotion de l'euthanasie au XXe siècle », une enquête historique pour comprendre l'origine de la pensée des mouvements euthanasistes. Une publication ô combien d'actualité, puisque le projet de loi de la mort qui tue revient à l'Assemblée nationale le 16 février, donc dans quelques jours. À 18h30-45, nous recevrons Mario Manuel Leb pour parler de la symbolique occulte au cinéma. Autant vous dire qu'entre cet art qui relève presque du médium et des sujets comme l'assassinat de JFK, nous allons plonger avec gourmandise dans les sphères du complot comme rarement. Pour m'accompagner aujourd'hui, les conspirateurs contre la République, mais qui sont toujours fait griller, Marc Aubrégon et Rémi Carlu. Bonjour messieurs.
Bonjour Arthur. Bonjour,
je
Arthur.
Vous annonce que notre magazine L'Incorrect, le numéro de février, toujours dans vos kiosques, en une, la France face au chaos mondial, Charles Gave et Philippe Diré-Barne débattre. Et vous pourrez découvrir également un grand reportage, au cœur de la révolte paysanne et puis toute l'actualité culturelle. Et enfin, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission par téléphone ou par courriel pour poser vos questions à nos invités. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet.
Ma parole d'infirmière, elles font plutôt du bien. Mes intramusculaires, j'attaque par surprise. C'est la meilleure tactique, vous l'attendez dans la fesse droite. Et c'est la gauche que je pique. Mademoiselle Figure ne fait jamais mal. Mademoiselle Figure, c'est un vrai régal.
Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Mademoiselle Piqûre d'Annie Cordy, parce qu'en effet, nous allons parler de piqûres et de pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit que de celle que nos députés s'apprêtent à tamponner juridiquement et moralement. On parle évidemment de l'euthanasie, du suicide assisté. Alors Grégor Pupinck, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en droit et le directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice. Alors le ECLJ, comme on dit, donc le Centre Européen pour le Droit et la Justice, est un groupe de juristes chrétiens qui défend la dignité humaine, les libertés et la souveraineté. Il a été fondé en 1998 à Strasbourg. C'est une organisation non gouvernementale engagée dans des actions de plaidoyer et de contentieux auprès des institutions européennes et internationales, et en particulier la Cour européenne des droits de l'homme et les Nations unies. Et donc vous venez de publier une enquête historique pour comprendre l'origine et la pensée des mouvements euthanasistes, issu de votre prochain ouvrage qui sortira dans quelques semaines, qui s'intitule « La conjuration contre la vie ». Mais avant de plonger dans ce projet de loi et les origines des partisans de l'euthanasie, nous avons une coutume, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Grégor Pupinck, vous devez devenir le clone de quelqu'un. Qui choisissez-vous?
Et moi-même.
La Cour européenne a décidé de vous euthanasier, pour contestation. Vous avez le droit d'un dernier repas, avec 5 écrivains. Qui prenez-vous?
Alors, je prendrai vivant ou mort, les écrivains.
Comme vous voulez.
Je prendrai La Fontaine, Molière. Je prendrai Peggy, Gilson et Houellebecq.
Ah, pas mal pour Houellebecq, ça. Pour finir en beauté. Le banquet est terminé, vous avez le droit à un dernier verre. Ce que vous voulez.
Le vin de cerise de mon épouse.
Vin de cerise. D'accord. Bon, là, la fête est vraiment finie, il faut passer à l'acte. Vous avez le choix du moyen. Vous prenez quoi?
Je le laisse le choix à la cour.
Immortalité ou cerveau augmenté, s'il fallait choisir?
Immortalité.
Le roman dystopique à offrir à un militant de la DMD?
En fait, ils sont eux-mêmes en fait, les auteurs de pas mal de romans. Les promoteurs de l'euthanasie et du transhumanisme, ça vient même de chez eux. Donc je pense, effectivement, on peut leur donner les livres de Wells, par exemple, sur le Nouvel Ordre.
Christine Taubira en un mot.
Ah, ça, c'est dangereux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on répond. Je dirais gauchiste.
Olivier Falorni en deux mots.
Franc-maçon.
Raphaël Enthoven en trois mots.
Je ne connais pas.
Joli. Le serment d'Hippocrate ou la déclaration d'Helsinki?
Alors, Hippocrate. Parce que Helsinki, c'est une invention tout à fait récente qui est évolutive. Ça veut dire que chaque fois qu'on veut faire passer une nouvelle pratique, eh bien, on change le serment.
L'idée bioéthique la plus folle?
La bioéthique elle-même, puisqu'en fait, c'est une invention des années 70 qui sert à remplacer la déontologie médicale.
Et enfin, quel est le plus grand juriste de tous les temps?
Ah, le Christ.
Merci Grégoire Pupinck. Revenons donc maintenant au projet de loi sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté qui s'apprête donc à être débattu puis voté à partir du 16 février à l'Assemblée nationale. Alors, je vous propose une petite mise à jour parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, comme on dit joliment, a été de tout d'abord présenté le mercredi 10 avril 2024. Il était discuté en commission, puis l'examen en première lecture s'est déroulé en mai. Et là, patatras, une élection européenne et une dissolution plus tard, l'examen est interrompu. Mais il revient en janvier 2025 avec le gouvernement Bayrou qui décide de scinder le projet en deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'accompagnement, sur la fin de vie, donc en gros le droit à la picouse. En mars 2025, deux propositions de loi sont donc déposées à l'Assemblée nationale et en mai les deux textes sont débattus et sont adoptés à une large majorité. Il débarque au Sénat, mais le voici repoussé. Il revient en janvier 2026 chez Larcher et ses amis et là, retournement de situation, le texte sur l'aide à mourir est rejeté. Et donc le projet de loi est de retour à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Il va être débattu donc en la semaine prochaine, mais le texte qui va être débattu, c'est le texte voté en première lecture en mai 2025. Alors première question, que s'est-il passé au Sénat?
Alors le Sénat a peur de ne servir à rien. Et donc il veut
peur légitime.
C'est une peur légitime et donc il veut montrer qu'il n'est pas simplement dans l'opposition stérile. Il s'était dit, par des calculs politiques, que si, effectivement, c'était son idée première, hein, s'il rejette d'emblée le texte, ce sera le même texte qui reviendra à l'Assemblée nationale, ce qui était le cas finalement, et de ce fait, la marge de négociation pour amender le texte serait réduite. Donc le Sénat s'est dit dans un premier temps, on va accepter le principe de l'euthanasie, mais on va le modifier, comme ça, on modifie le texte, on renvoie un texte modifié à l'Assemblée, l'Assemblée gardera peut-être une partie des amendements, et on montrera ainsi que le travail du Sénat est utile. Finalement, il y a eu un micmac. Monsieur Retailleau a pris la parole, a clairement dit qu'il fallait voter contre. Nous avons aussi, nous, globalement, bien travaillé et réussi à convaincre quelques sénateurs d'adopter, de soutenir des amendements, ce qui a été le cas. Finalement, en plénière, eh bien, les sénateurs ont complètement modifié le texte et finalement ont fait un assez bon texte. Qui reprend et qui promeut les soins palliatifs. Si bien que lorsque le texte a été ensuite présenté au vote final solennel du Sénat, eh bien il y a eu une majorité contre le texte, à la fois de ceux qui étaient pour l'euthanasie, et donc contre ce texte, et d'autres personnes qui étaient restées avec l'idée qu'il fallait voter contre. Et donc finalement c'est tombé, et c'est l'Assemblée qui se ressaisit de son propre texte. Voilà. Mais vraiment la raison de tout cela, c'est quand même la particularité française d'avoir un Sénat qui n'a finalement qu'une voix quasiment consultative dans le processus.
Mais alors, si je comprends bien, les parlementaires de l'Assemblée nationale vont débattre sur le texte qui a été voté l'année dernière,
oui,
et qui est forcément, qui pouvait être, le texte du Sénat pouvait être que moins pire.
C'est ça. En fait,
stratégiquement, c'est étonnant.
Oui. La stratégie des personnes qui sont à la manœuvre et qui poussent, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, qui pousse le texte, c'est d'aller le plus loin possible. Et donc de pousser, donc ce qu'ils ont réussi à faire au mois de mai de façon extraordinaire. Ils ont fait un texte vraiment radical. On pensait que le Sénat allait peut-être revenir en arrière, mais finalement, donc c'est un échec. L'Assemblée reprend son texte, et donc le débat maintenant va être sur ce texte, avec une possibilité d'amendement qui demeure, mais qui est quand même assez moindre. Et ce qu'on peut craindre, en fait, c'est qu'il veuille aller encore plus loin. Et on l'a déjà observé, là, pendant les débats en commission des affaires sociales, puisque la commission a déjà supprimer des limites que l'Assemblée avait elle-même adopté au mois de mai dernier.
Alors, donnez-nous quelques exemples de ce qui se passe en commission.
Un exemple remarquable, c'est qu'en mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté une limite, la seule, c'est de dire qu'on ne permet pas l'euthanasie pour un simple trouble d'ordre psychologique, ça veut dire pour dépression. Et là, la commission des affaires sociales de l'Assemblée, en deuxième lecture, a supprimé cette disposition. Et donc permet à adopter un texte qui va être soumis au vote de l'Assemblée, qui permet l'euthanasie pour motif seulement d'ordre psychologique. Donc ça, c'est un exemple typique, parce que c'est une demande des mouvements euthanasistes de permettre l'euthanasie de façon très extensive, y compris pour la dépression. Et ensuite, il y a d'autres demandes qui suivent. Mais celle-là est majeure.
Alors, en quelle dernière question sur cette actualité, avant de revenir sur les origines, parce que c'est intéressant de savoir d'où il parle et d'où il pense, comme on dit, surtout quand on est de gauche. À quels abonnements afro on peut s'attendre? Parce que vous dites, le but, c'est d'ouvrir encore plus. Est-ce que vous pensez, alors il faudra peut-être pas leur donner des mauvaises idées, mais qu'est-ce qu'on peut craindre de pire?
Alors en fait, ce qui est demandé, là ils ont déjà largement obtenu ce qu'ils voulaient, ce qui pourrait demander encore, c'est l'accès pour les mineurs, les moins de 18 ans. Aujourd'hui, il y a cette limite qui est un petit peu absurde, de dire que l'euthanasie c'est que à partir de 18 ans. Dès lors que vous estimez que c'est un droit, même un droit de l'homme en fait, pourquoi la majorité? Si c'est un droit qui dépend de l'état de santé et de la volonté. Voilà. Donc ça, ce sera, je pense, la prochaine demande. Pour le reste, ils ont obtenu, on peut le rappeler, l'euthanasie pour les personnes qui ne sont pas en état terminal, on va dire, avec encore des mois ou des années à vivre. Une souffrance évaluée par la personne elle-même. Une euthanasie qui peut être initiée, donc la procédure, par une demande perçue par un soignant, non écrite. Il n'est pas nécessaire de formuler une demande écrite. Il suffit de dire que tel patient a exprimé le désir de. Ensuite, il faut la décision d'un seul médecin, qui est celui-là même qui pratique l'acte ensuite. Celui qui décide est le même que celui qui fait la piqûre. Celui qui décide n'a qu'à consulter, même en visio, deux autres personnes de son choix. Et ensuite, à partir du moment où le médecin confirme « oui, madame, vous pouvez effectivement mourir », donc en fait, vraiment, où il décide, eh bien, la personne dispose d'un délai de 48 heures minimum avant d'être euthanasiée. 48 heures. En Belgique, c'est un mois. Déjà, en Belgique, c'est extrêmement libéral. 48 heures. Et le médecin n'a pas le droit d'informer la famille.
Ah oui, d'accord.
Et donc, la famille, en fait, n'a pas un droit à être informée. C'est uniquement la personne qui demande ou qui demanderait à mourir qui décide qui informer éventuellement. Ça veut dire que vous pouvez voir votre grand-mère le dimanche et le mercredi avoir le coup de fil de la maison de retraite où on vous dit venez chercher le corps, venez vous occuper de la suite. Et ensuite, c'est pas fini, le contrôle est a posteriori. Le contrôle est après la mort de la personne. Et dans la commission de contrôle, il y a notamment des membres d'associations engagés qui ont dans leur statut la promotion du droit à l'euthanasie. Madame Loiseau, en commission, avait même a eu l'audace même de dire, écoutez, vous comprenez, il faudrait qu'au moins dans la commission, on soit garanti qu'il y ait au moins moitié de personnes favorables à l'euthanasie. Parce que vous comprenez, il ne faudrait pas que dans la commission de contrôle, on ait des opposants à l'euthanasie qui viendraient bloquer a posteriori.
C'est dommage. Juste, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert cette commission de contrôle?
En fait, elle est là pour vérifier que tout a été fait selon la procédure, comme on disait en Allemagne dans les années 30. Tout selon la procédure, et simplement ça, parce que la personne est déjà morte, on ne fera pas d'autopsie en principe, on dira d'accord, qu'est-ce qu'elle avait comme maladie, est-ce qu'elle a bien exprimé, est-ce que vous avez consulté les deux personnes, oui. Voilà, en Belgique, il y a une telle commission, on s'inspire de la commission belge, la commission belge, en Belgique, il y a des milliers d'euthanasies, on est déjà 5% des morts, 5% de la population qui meurt par euthanasie, en Belgique, 5%, 10% au Québec. Alors que ça fait que quelques années qu'ils ont cette pratique. Eh bien, en Belgique, il n'y a eu qu'un seul cas communiqué à la justice sur les milliers d'euthanasies. Donc, autant dire que c'est une commission de validation. Et dans la commission belge, vous avez des médecins qui pratiquent eux-mêmes l'euthanasie.
Et si je ne crois pas me tromper, il y a eu un amendement qui a été voté en mai dernier pour dire que quelqu'un qui se suicide ou qui a une euthanasie doit être déclaré comme mort naturelle.
Ah oui, ça c'est pour les assurances, c'est extrêmement important, assurance vie et autres. Et puis ensuite, l'autre question, c'est aussi peut-être par rapport au prélèvement d'organes. C'est que vous avez 3 fois plus de prélèvements parmi les personnes euthanasiées que parmi les personnes mortes naturellement. Or, il faut, pour permettre le prélèvement, que la personne soit déclarée morte. Là, dans les pays qui pratiquent déjà l'euthanasie, et ce sera possible en France, il y a eu des amendements rejetés qui visaient à protéger les personnes de cela. Eh bien, par exemple, en Belgique, vous avez le cas d'une jeune femme de 16 ans qui a demandé l'euthanasie parce qu'elle avait une tumeur cérébrale. Elle a décidé de donner des organes parce qu'elle était encore jeune. Les médecins ont donc pratiqué l'euthanasie en 36 heures. Ça veut dire qu'ils ont organisé l'adieu pour la famille dans sa chambre. Ils l'ont anesthésiée. Et ensuite, ils ont emmené la jeune fille, Eva, au bloc. Là, au bloc, ils ont inspecté l'état des organes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ils ont contacté les réseaux intermédicaux pour les transplantations, savoir qui est intéressé par un rein, qui est intéressé par un cœur, qui est intéressé par ceci. Une fois qu'ils ont eu les réponses, eh bien, ils ont provoqué un peu... ils l'ont provoqué une première rampe de mort pour déclarer la mort, puis réanimé pour que le cœur rebatte, parce qu'en fait, il faut pour prélever les organes, il faut que la circulation sanguine soit fasse. Donc, pour que le cœur fonctionne, prélever et achever au bout de 36 heures. Donc ça, c'est dans la presse belge le soir, vous pouvez trouver un article là-dessus, qui décrit précisément, le chirurgien lui-même décrit la procédure, parce qu'il faut quand même que légalement, on puisse dire que la personne est morte. Mais il faut... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que on prévoit le prélèvement, ou que la personne accepte, on est tous des donneurs potentiels, eh bien, en fait, la mise à mort, entre guillemets, est subordonnée, les modalités de la mise à mort sont subordonnées, en fait, au but final qui est le prélèvement, parce que ce qui compte à la fin, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un prélèvement de qualité, et donc on va organiser la mort. Voilà. Et donc, dans ces pays, je répète, 3 fois plus de prélèvements sur les personnes. Voilà. Et ça peut aussi être vu comme une façon de dire que, et c'est même un des slogans, que l'euthanasie sauve des vies. Parce que vous pouvez, par l'euthanasie...
Bienvenue chez Orwell. Orwellien. Rémi, une dernière question sur l'actualité, et après on va revenir sur votre enquête qui est passionnante.
Oui, l'un des éléments de langage sur cette loi euthanasie, qui a été repris par Emmanuel Macron, c'est de dire qu'on va être capable de fonder un modèle français de la fin de vie qui sera différent du modèle permissif belge. C'est souvent l'expression qui est employée. Vous, quel regard portez-vous là-dessus? Puisque d'après ce que vous êtes en train de nous dire, on a l'impression que le modèle français de la fin de vie, finalement, se rapproche déjà assez de...
Il sera pire, parce que ne serait-ce que sur la question du délai, en Belgique c'est 1 mois de réflexion, en France c'est 2 jours. Donc c'est clairement pire. Je ne suis pas sûr qu'en Belgique, en France on n'a pas le droit, j'ai dit, les proches n'ont pas un droit à être informés. On n'a pas le droit non plus de porter l'affaire en justice, ça veut dire que si vous apprenez que votre épouse ou votre parent est en procédure d'euthanasie, vous ne pouvez pas contester devant le juge la décision du médecin. Ça, c'est totalement contraire à la Constitution. Ensuite, le tout est assorti d'un délit d'entrave qui n'existe pas en Belgique. Si quelqu'un essaye de protéger son proche, genre même fait barrage dans la porte, n'entrez pas les personnes avec la piqûre, n'entrez pas, je ferme la porte.
Ouais.
2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Ça, nulle part dans le monde, vous avez une telle répression pénale contre les personnes qui voudraient s'opposer à l'euthanasie d'un proche. Et c'est aussi l'un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est les maisons de retraite seraient obligées d'accepter la pratique de l'euthanasie dans leur mur, y compris les congrégations. Oui. Donc les maisons de retraite de religieuses seraient obligées et condamnées, donc elles ont déjà dit elles-mêmes qu'elles sont prêtes à être condamnées, voire même à devoir fermer, si effectivement ce délit d'entrave demeure. Non, le modèle français est le plus répressif au monde. Dans aucun pays au monde, il y a une telle disposition pénale qui vraiment vient verrouiller le système et empêcher ceux qui voudraient protéger, prévenir l'euthanasie.
Alors, plongeons maintenant dans votre enquête historique qui nous offre un éclairage sur l'origine et la pensée de ces mouvements militants pour la légalisation de l'euthanasie, et puis ça permet de comprendre aussi l'enjeu des débats et puis les moyens utilisés pour ces débats. Alors, vous datez l'origine du premier mouvement pour l'euthanasie, en Occident en tout cas, en 1935, chez les Anglais, comme par hasard, avec, alors je vais dire à la Macron, Voluntary Euthanasia Legalization Society, for sure. Donc VELS, on va dire.
Ouais.
Alors racontez-nous un peu comment ça se met en place et qui sont ces gens.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il existe des mouvements structurés de promotion de l'euthanasie depuis le début du XXe siècle. Voilà. C'est un militantisme qui existe, qui est devenu international et qui est d'origine anglo-saxonne et, on peut dire aussi, allemande. Ça vient d'où ? Ça vient des milieux matérialistes, ça vient du milieu de la libre-pensée internationale, de façon très enracinée, donc l'espèce de franc-maçonnerie internationale, qui vraiment est à la manœuvre. Au départ, c'est ça. Matérialisme, darwinisme, évolutionnisme, eugénisme. Le milieu de base, le terreau, il est dans cette vision de l'être humain qui doit être maître de son destin, dont la dignité est de progresser en capacité, en intelligence. L'idée, c'est ça, c'est que l'être humain, dans la vision de Darwin, était un poisson, puis un singe, maintenant un homme, et que parmi les hommes, même, il y a une hiérarchie raciale, parce qu'il y a ceux qui sont en fonction du degré d'intelligence et d'évolution. Et même au sein d'une même race, il y a une hiérarchie en fonction des capacités intellectuelles. Et ensuite, il y a une dynamique globale de progrès par la sélection. Par la sélection, qui, elle, est l'instrument du progrès. Or, la société est perçue comme étant contraire à la sélection, parce que la société aide les faibles, la société soigne les malades, la société aide à vivre longtemps. Et donc, elle est dysgénique, comme on disait à l'époque, ça veut dire qu'elle a un effet contraire à l'eugénisme. Elle favorise les faibles, elle aide les faibles, elle permet aux pauvres d'avoir des enfants. Et donc, ce qu'il faut pour ces gens-là, pour assurer le progrès de la société, pour que la société soit forte, il faut que les plus faibles ne puissent pas avoir d'enfants, soit qu'ils soient stérilisés, soit qu'il y ait des systèmes de ségrégation, comme ça était le cas aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre. Et puis, il faut aussi alléger la société du poids mort, de ces gens, de ces idiots, des enfants handicapés à la naissance, des personnes séniles, des alcooliques et autres, qui en fait sont un poids pour la société et l'empêchent de progresser. Donc ça, c'est la vision de départ.
D'accord. Rémi Carlu.
Oui, l'image qu'on se fait du monde anglo-saxon, c'est plutôt d'un monde défenseur des libertés individuelles, avec la Magna Carta, l'indépendance des États-Unis, etc. Or, vous montrez que précisément l'euthanasie, qui au départ est un droit de tuer, évolue, enfin se développe dans le monde anglo-saxon. Qu'est-ce qui, dans le terreau britannique d'abord, fait que c'est l'euthanasie s'y développe plutôt qu'ailleurs?
Alors bon, ils n'ont pas adopté l'euthanasie au Royaume-Uni, la pensée est venue vraiment, je dirais, de l'entourage de Darwin et donc c'est Darwin, Spencer, vous savez la loi du plus fort. Donc là, cette idée de sélection, d'évolution et de progrès par la sélection du plus faible. Et l'élimination du moins adapté. Donc ça, c'est l'idée. Ensuite, c'est le rejet, quand même, le rejet du christianisme. Donc il y a un très fort ancrage. Alors, ils sont tous membres de différentes sociétés, la société fabienne, la société royale. Enfin, c'est très ésotérique, l'Angleterre au XIXe siècle. Hein. C'est très scientiste, progressiste, ésotérique.
Utilitariste
aussi, bien sûr. Et donc, ils sont convaincus que grâce à Darwin, ils ont enfin compris la loi de l'humanité, comment l'humanité est régie. Ils se disent, voilà, c'est très simple. En fait, la supériorité de ces gens-là qui se pensaient supérieurs, la classe victorienne, c'est normal que la classe dirigeante soit au-dessus, c'est biologique quasiment. Donc c'est une légitimité naturelle, biologique. Les puissants sont supérieurs aux pauvres. Et tout le système justifie cette supériorité. Et aussi vise ensuite à la maintenir en limitant d'abord la procréation chez les plus pauvres. Il ne faut pas que les pauvres soient trop nombreux. Il ne faut pas que les faibles, que les débiles, ensuite on fait plein d'évaluations biologiques, soient trop nombreux et puissent menacer l'élite. Et cette pensée, elle est essentielle. Ensuite, l'euthanasie n'est que, bien souvent, un prolongement de la stérilisation. Donc, il y a eu des politiques de stérilisation. Et aussi, mais pourquoi les stériliser? Finalement, ils sont dans leurs hospices, dans leurs hôpitaux. Ils coûtent cher. Ça coûte, on pourrait avoir plein de citations. Dans cette étude, il y a plein de citations. Ils coûtent cher à la société. Finalement, ils ne sont pas vraiment humains parce qu'ils ne sont pas vraiment intelligents. Parce que dans la vision évolutionniste, seule l'intelligence est signe d'humanité. Donc, s'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas humains. Donc, ce sont des corps. Ce sont seulement des corps. Le matérialisme dit qu'ils ne valent pas plus qu'un animal, même moins. Et donc, on peut les supprimer. Donc ça, c'est la vision sur l'euthanasie des personnes faibles. Enfants handicapés, personnes malades, personnes âgées. Ensuite, il y a l'autre versant qui est la promotion du suicide. Et là, c'est différent. L'idée que, encore une fois, l'être humain est humain en raison de sa capacité à vouloir. L'autonomie, la puissance, l'intelligence, la maîtrise de soi. La domination du corps par l'esprit, de la matière par l'esprit. Et donc, pour eux, il n'y a pas plus grande forme d'humanité, en fait, que le sacrifice du corps sur décision de la volonté, donc le suicide. Pour eux, le suicide est la plus haute expression de notre humanité. Seul l'être humain serait capable de se suicider, en fait. Et seul l'être humain prouverait ainsi son humanité et sa plus grande liberté en mettant fin à ses jours. Et donc, c'est aussi cette vision matérialiste, mais poussée à l'extrême, en disant d'un côté, il y a le suicide pour les surhommes, à la Nietzsche, suicide pour les surhommes, et de l'autre, l'euthanasie pour les sous-hommes. Et ces mots surhomme, sous-homme, on les trouve dans la littérature eugéniste et des promoteurs de l'euthanasie. Odette Thibault, en France, fondatrice de l'ADMD, parle des personnes sous-humaines, qui déjà ne seraient plus vraiment humaines parce qu'ayant perdu leur capacité intellectuelle ou diverse. Et donc, les tuer ne serait pas vraiment un meurtre parce que ce ne serait plus qu'un corps.
On reviendra sur l'ADMD parce qu'il y a toute une partie en effet consacrée, ce qui est intéressant. Toujours bien de revenir aux sources. Mais alors, je reviens encore un peu avant sur le. Parce que vous l'avez dit, il y a il y a l'euthanasie des sous-hommes et le suicide des surhommes. Oui. Si on reste sur l'euthanasie des sous-hommes, alors il y a en effet cette association en Angleterre qui date de 1935. Et puis c'est vrai qu'il y a une prédisposition anglaise parce qu'avec les lois sur la déficience mentale, et notamment où notre camarade Churchill s'est bien alimenté sur le sujet. Ça se développe aussi aux États-Unis. Avec cette association, alors qui a un premier nom, mais un deuxième nom qui va rester, qui s'appelle l'ESA, on va dire, Euthanasia Society of America, qui est lancée par une femme qui s'appelle Anne Mitchell, qui est elle-même, qui souffre d'une maladie mentale.
Oui.
Et alors, peut-être vous raconter comment on peut. On souffre d'une maladie mentale et on crée une société, une association pour faire la promotion de l'euthanasie, mais il y a des exemples qui sont assez effrayants. On est en 1942, donc une guerre mondiale, on sait à peu près ce que font les nazis, ça commence à se savoir même aux Amériques. Et là, vous avez donc un neurologue qui s'appelle Foster Kennedy, qui est le nouveau président de l'ESA, et donc qui continue, malgré les infos qu'on a d'Allemagne, continue à recommander l'euthanasie forcée des enfants déficients mentaux. Et Anne Mitchell, donc celle qui est la première à avoir créé l'association, espère que la guerre va durer suffisamment longtemps pour pouvoir faire le ménage biologique.
Oui, c'est ça.
On a des psychopathes aux États-Unis quand même, qui sont au courant de ce qui se passe en même temps en Allemagne.
Ils sont parfaitement au courant parce qu'ils entretiennent des relations étroites. Pendant les années 30, les associations eugénistes, qui sont composées des mêmes personnes, toutes les associations pour l'euthanasie ont été fondées à partir des associations eugénistes. C'est une branche des associations eugénistes, les mêmes cadres. Eh bien, ont eu des réunions fréquentes à Berlin, à Paris, à Genève, entre militants et experts. À l'époque, c'était extrêmement bien vu. C'était le progrès, c'était la science, des grands congrès scientifiques entre les Américains, les Anglais, les Allemands pour comparer leurs lois sur la stérilisation. Et donc, vous avez un congrès encore à Berlin, je crois que c'est en 37. Il y a même des Français qui y vont, notamment l'un des fondateurs du planning familial français, bien après, Jean d'Alsace, qui y vont et ils se réjouissent de la chance qu'ils ont d'avoir enfin un chef d'État courageux en Allemagne qui met en œuvre avec audace la loi sur la stérilisation des personnes handicapées, avec toute la procédure des tribunaux, vous savez, c'était des décisions prises par des médecins, avec des juridictions médicales. Donc, il y avait une grande procédure, et donc ils étudiaient les procédures et les critères. Et alors, on comparait le système américain avec le système allemand. Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, qu'on connaît bien dans le monde entier, elle estimait quand même, bon, le système allemand, il est un peu trop procédurier. Il y a un peu trop de juridiction quand même. Il ne faut pas oublier l'intérêt général de la race. Et donc, il ne faut pas trop non plus... Donc, ces gens-là travaillent ensemble. Le système de stérilisation allemand a été adopté sur l'exemple... d'une loi américaine rédigée par un Américain qui s'appelle Loughlin. de la société eugéniste américaine. Donc les liens sont extrêmement profonds, extrêmement étroits, ils connaissent, ils savent, et pour eux, dans un premier temps, l'expérience allemande est une grande chance, et ensuite, un malheur, parce qu'un discrédit de la cause. Discrédit, alors soit ils sont allés trop loin, soit c'était pas assez scientifique, les gens disaient différentes choses, certains disaient non mais les Allemands ils sont pas vraiment assez scientifiques, vous voyez, c'est... ou alors bon, donc ou excessif, mais la proximité, Foster Kennedy par exemple dont vous parlez, c'est une personnalité importante en Amérique, il a aussi reçu un doctorat honoris causa à Heidelberg, en Allemagne nazie en 1937, en même temps justement que Loglin qui est le concepteur des lois américaines et allemandes sur la stérilisation. Donc les liens sont extrêmement étroits. Le responsable nazi des programmes eugénistes publié régulièrement dans la presse américaine, y compris dans ces presses eugénistes et de birth control. Donc vraiment, c'est une même société savante qui, avant la guerre, était socialiste, progressiste et estimait vraiment qu'ils allaient réussir à améliorer la société grâce à la science.
Il est 18h01, chers auditeurs, et rappelez-vous que si vous pouvez écouter Radio Courtoisie et si vous pouvez découvrir que l'ADMD peut remonter à très très loin et des périodes pas très sympathiques, notamment de l'Allemagne, c'est parce que Radio Courtoisie est une radio libre qui dépend uniquement de vos subventions, de vos dons, pardon, pas de subventions, justement. Heureusement, si on avait des subventions, on serait coupé. Rien qu'avec ça dit Grégoire Pupin qu'on aurait eu l'ARCOM immédiatement collé au derrière. Donc écoutez ce petit message et on revient tout de suite vers vous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Grégoire Pupin qui publie une étude passionnante sur les origines des promoteurs de l'euthanasie. Autant vous dire que les origines sont plus que douteuses, plus que contestables, même assez effrayante. Bref, on va continuer à en parler, mais vous savez qu'à 18h, c'est l'heure également de la chronique de Rémi Carlu, qui va nous parler, non pas de la valse des pantins, mais quoique, la valse des élites.
Et oui, cher Arthur, les têtes n'étaient plus autant tombées depuis 1793. En quelques semaines, l'affaire Epstein, et non Epstein, a défrayé la chronique et fait trembler les puissants de ce monde. Par la notoriété des accusés, par la gravité des actes, par la diversité des accusations, ladite affaire rend presque ringarde les théories complotistes les plus folles. Une partie de l'élite mondiale semble bel et bien compromise dans un vaste scandale pédophile qui dévoilera par ailleurs d'autres scandales politiques et financiers. En attendant de livrer tous ses secrets, l'affaire a déjà eu raison de l'indéboulonnable Jack Lang, quoiqu'il ne soit pas tombé pour la raison que nous savons qu'il sait que nous savons. Mais il était temps, puisqu'il se dit de source sûre que l'intéressé était en voie de momification. Et par un heureux concours de circonstances, Jean-Marc Morandini décidait lui aussi, enfin, de rendre le micro. Mais des gros dégueulasses, il y en aura encore beaucoup jusqu'à la fin des temps.
On a quand même eu de bonnes nouvelles cette semaine, ce qui est assez rare en ces temps. Mais comment expliquez-vous cet inexplicable scandale?
Les sociologues attitrés de la Sorbonne, rousseauistes et considérant par conséquent que l'homme est bon par nature et que le mal n'est que le produit d'une société déréglée, ces sociologues donc, auront vite fait de porter l'accusation sur les structures de pouvoir, qui, il est vrai, sont corruptrices en puissance, mais pas toujours dans les faits, ou sur la misogynie systémique de l'Occident. Mais comment alors expliquer le rôle de Ghislaine Maxwell, femme d'Epstein, qui joua le rôle de rabatteuse et participa au rapt d'enfants? Les faits dont on parle sont trop effroyables, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre à l'œuvre. En fait, ces sociologues vont comme toujours regarder le doigt du sage qui pointe la lune, car il n'y a qu'une seule explication possible pour expliquer un mal aussi radical, c'est le diable. C'est le diable en personne qui agissait à travers Epstein. Comme le Christ au désert, le diable a tenté Epstein avec la chair, l'argent et le pouvoir. Et lui s'est laissé prendre en souillant les plus petits pour son propre plaisir. Sa conscience s'est éteinte, d'où ce sentiment d'impunité complètement fou. C'est un nouveau massacre des innocents qui a eu lieu. Au passage, n'en déplaise aux relativistes de tout poil, les réactions spontanées et unanimes nous montrent que le bien et le mal ne nous appartiennent pas, elles sont des catégories qui existent et qui s'imposent à nous.
Doit-on conclure de cette affaire que toutes les élites sont pourries?
Eh bien, face à de telles circonstances, on est effectivement tenté de se livrer aux constats les plus radicaux. Nos élites, en plus d'être incompétentes, néfastes et traîtresses, auraient atteint un état de dépravation morale proprement épouvantable. Tout ceci réveille chez votre serviteur certaines pulsions purificatrices. Rallumons les saints bûchers de l'Inquisition, tous les pédocrates à la lanterne, Savonarole, au secours! Mais n'allons pas si vite en besogne. parce qu'en contrepoint, on serait alors tenté de croire à la décence commune des gens ordinaires, idée théorisée par George Orwell et reprise par Michéa ou Guiluy en France. C'est d'ailleurs le renversement opéré par la droite au XXe siècle. Avec José Ortega y Gasset, elle craignait encore l'ère des masses. Elle dénonce maintenant, avec Christopher Lasch, la révolte des élites. De l'éthos aristocratique, la droite est passée au paradigme populiste. Mais que penser de cette décence ordinaire ? Disons que Gisèle Pélicaud doit avoir quelques doutes, doutes que nous partageons au demeurant. Si le scandale Epstein est si spectaculaire et stupéfiant, c'est que ses moyens matériels lui ont permis de déployer à échelle industrielle ses penchants funestes. Mais Dominique Pélicaud et ses acolytes, s'ils l'avaient pu, se seraient sans doute eux aussi offert une île de la tentation. Bref, les structures de péché existent à tous les niveaux. Telle est notre tragique condition, nous sommes chacun engagés dans une lutte spirituelle et perpétuelle terrible contre le mal. Le cœur humain est un cloaque dans lequel il faut descendre en se bouchant le nez.
Vous parlez beaucoup de morale, mais en culture, on dit souvent qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste. La même distinction ne devrait-elle pas avoir cours pour les élites ?
Eh bien, je vous parie que ce va être la stratégie argumentative utilisée par la gauche pour sauver l'héritage du jacques-languisme, mais je crois que c'est résolument faux. D'abord, pour une raison pratique. Dans une tribune au Figaro, l'historien Jacques de Saint-Victor a bien montré comment, de l'ancien régime à l'affaire Epstein, les scandales privés, d'ordre moral ou sexuel, entament la légitimité des élites. À un certain point de corruption morale devenu trop évident, le peuple ne juge plus bon de les suivre et les renverse. Ensuite, pour une raison plus profonde, la nation est une famille en grand. Et comme un bon père de famille, les élites ont deux leviers pour gouverner le corps politique. Il y a l'ordre de la loi et l'ordre des mœurs. Prenons le sujet de la décivilisation. Vous pouvez agir par la loi en ajoutant policiers, prisons et caméras, mais seule une amélioration des mœurs peut agir a priori pour prévenir les troubles. Il en est de même pour l'éducation ou l'économie. La loi ne peut pas tout, elle est par sa nature limitée et n'a qu'une prise relative sur tout phénomène social. Ce qui compte en dernier ressort, ce sont les mœurs, plus que les lois, et j'en tiens pour preuve que quand vous avez suffisamment de mœurs, vous n'avez pas besoin de loi. Or, l'action sur les mœurs vient toujours d'en haut. C'est par l'imitation de personnes exemplaires que les masses s'élèvent, que les mœurs s'épurent, qu'un mouvement civilisationnel ascendant s'enclenche. La décence commune, si elle existe, n'existe que parce qu'il y a eu des rois, des nobles, des prêtres, des évangélisateurs, des maîtres, des parents, pour la forger patiemment en faisant barrage au mal. Bref, une élite vertueuse, ce que Thomas Carlyle appelait les héros et l'église des saints. L'exemplarité, c'est la base du gouvernement. On disait autrefois « noblesse oblige » pour signifier que les responsabilités du notable dépassent de beaucoup ses obligations légales et qu'elles appellent une certaine manière d'être sur le plan social et moral. Dans « Foi et amour », le grand romantique allemand Novalis écrivait même « Il n'y a qu'une base à la réforme véritable de l'État, et c'est l'élévation du sentiment public dans le sens de la noblesse toujours plus grande. Le roi et la reine ont le pouvoir et le devoir d'être le principe du sentiment public. »
Très bien, mais une telle élite, existe-t-elle ?
Bien, je crois que c'est la question que nous pose l'affaire Epstein. Quels exemples pouvons-nous opposer à ce mal ? À qui nous référer terrestrement ? En plus d'avoir à peu près détruit notre pays, les élites nationales n'ont plus aucune boussole morale, confère la constitutionnalisation de l'avortement, et cadenassent les institutions à leur profit, confère la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Localement, il n'y a plus d'élite du tout. Un ami haut fonctionnaire, travaillant dans une ville grand placée de la couronne parisienne, me racontait dernièrement que chaque matin, les élites blanches débarquaient en train de Paris pour gérer la dite ville, avant de regagner la capitale le soir venu. C'est une situation coloniale à front renversé. La colonisation s'est faite par le bas, et les colonisateurs se laissent administrer par un dernier reliquat de colonisés qui n'y vivent plus. Pour ce qui concerne la grande ruralité, les élites y ont complètement disparu. La noblesse a été chassée, les curés se font rares, à peine trouve-t-on des candidats pour se présenter aux élections municipales. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, le syndrome des gilets jaunes, personne ne serait plus en droit de représenter les masses en mouvement, et c'est ce qui a tué leur velléité, le dégagisme pour le dégagisme ne donne rien. Le cœur du mal français est là, nous n'avons plus d'élite fiable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'individus courageux par ailleurs. Et c'est donc là que doivent se concentrer tous nos efforts pour le redressement national, refaire des élites, des héros, des saints, à tous les échelons, dans toutes les provinces. Car c'est toujours par la tête que l'on pourrit ou que l'on se relève, une poignée de grands hommes et tout repart.
Merci Rémi Carlu, un beau programme en perspective pour ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années, sinon bah, nous disparaîtrons. Alors, revenons à des élites fort sympathiques, elles aussi, ces élites des années 30 et 40, du côté des Anglais, du côté des Américains, du côté des Allemands, évidemment. On se rappelle tous de cette phrase de Bernard Kouchner en 2014, qui expliquait qu'il fallait bannir le terme « euthanasie » à cause du mot « nazi ». Je cite « Il y a le mot « nazi » dedans, c'est pas très gentil ». C'est vrai que c'est pas très gentil, mais le problème c'est qu'en vous écoutant, Grégoire Pupin, qu'on se rend compte, bah, c'est quand même, c'est peut-être pas gentil, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que vous avez donc des élites américaines, anglaises, du corps médical plutôt, ou des chercheurs, et avec, qui se regroupent avec des Allemands, qui étudient, qui leur échangent, et puis ils trouvent que ce qui se passe en Allemagne, c'est, pas si, c'est quand même pas mal, parce que bah, leurs idées se mettent en place.
C'est ça, ils ont trouvé en Allemagne il y a des citations extraordinaires où ils disent qu'ils ont un chef d'État qui a l'audace, le courage, etc., d'appliquer de façon entière le programme. Ces gens-là sont convaincus qu'en une ou deux générations, ils peuvent changer la race. Donc d'abord, ils ont une méconnaissance de la biologie. Hein. La génétique, ils ne connaissent pas encore bien. Donc, mais ils s'imaginent qu'en sélectionnant la procréation, on peut changer la race. Ces gens-là, même des socialistes, proposaient de faire des banques de sperme de prix Nobel. Ils disaient qu'il faut que l'on trouve les êtres les plus supérieurs et qu'ils fécondent des centaines de femmes, elles aussi choisies, pour comme ça créer une nouvelle race. Mais c'est la même chose que ce qu'a fait Hitler dans les Lebensborn.
Ouais, c'est les Lebensborn. Ouais,
avec
les c'est ce que souhaitait faire Einstein aussi.
Les fontaines de vie, comme on disait. C'est ça, ouais, exactement. Et donc cette idée, c'est qu'avec cette méconnaissance, cette connaissance approximative de la biologie issue du 19e siècle, on pensait qu'on pourrait changer la race, faire, disait-il, une... Alors ils ont plein de mots ésotériques, société radiante, etc. Ils ont tous eu des illuminations. Enfin, c'est tous des personnes qui... Et ensuite, en parallèle de cela, ils ont aussi une vision de la... Alors, ils sont plus du tout chrétiens. Une vision de la sexualité qui est assez conforme à leur pensée. C'est qu'ils disent, en fait, la sexualité, pour eux, c'est une expérience mystique. Ça peut être la plus forte expérience sensorielle, émotionnelle, relationnelle. Et elle est d'autant plus humaine pour eux qu'elle est stérile. Parce que pour eux, ce qui est humain, c'est ce qui est gratuit. La sexualité avec la fécondité, c'est bestial. Donc il y a presque un côté, comme à l'époque des cathares, vous savez. Il faut uniquement vivre au plan de l'esprit. Quelqu'un comme Julian Ox, le premier directeur général de l'UNESCO, qui était aussi fondateur de l'association anglaise et américaine d'euthanasie et d'eugénisme, et président de la Ligue internationale de la libre-pensée, enfin humaniste international, donc un grand initié, le président de la... Eh bien, c'est ce qu'il disait. Il disait, l'être supérieur, c'est le musicien, c'est le mathématicien, etc. Et il faut avoir une hiérarchie. Et il faut même, quand il était à l'UNESCO, disait-il, faire passer des tests pour ne pas faire perdre du temps aux enfants dans des études et avoir une hiérarchie sociale en fonction des capacités. Donc tout ça, c'est la vision spiritualiste et matérialiste en même temps de l'être humain, et la sexualité pour eux, elle est d'autant plus grande qu'elle est stérile et qu'elle est même contre nature. Parce que plus c'est contre nature, plus c'est libre, plus c'est humain. Et donc on est en plein aussi dans cette époque-là, dans le mouvement de la réforme sexuelle, qui était porté par quelqu'un comme Ellis, Havelock Ellis en Angleterre, et Margaret Sanger aux États-Unis, la fondatrice du planning familial. Cette idée qu'en fait, c'est le rapport au corps, le rapport à la vie, à la procréation, qui doit être bouleversé, il faut que l'homme soit entièrement libre et que finalement le corps ne soit que une dépendance dont on peut tirer un plaisir et qu'ensuite on va gérer, supprimer s'il nous donne trop de déplaisir.
Alors,
oui, exactement, ça vient parfaitement des Lumières, le matérialisme. Alors bon, même si on lit Sade, en fait, on retrouve chez Sade des phrases qui sont extrêmement claires sur la même vision du corps, la même vision du rapport à la procréation, à l'avortement aussi, en disant qu'il n'y a aucun mal à supprimer la vie à un enfant, pas plus que de se couper les ongles, l'enfant appartient à la mère, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est en germe complètement en France, au 18e. Donc on peut dire, si on fait la généalogie, c'est plutôt... récente, c'est 18e France, philosophique, 19e l'Angleterre, Darwin, Spencer, l'utilitarisme, l'évolution, le néo-darwinisme, dans l'époque victorienne, il faut justifier que la domination quand même d'une toute petite île blanche sur le monde entier. Donc c'est forcément biologique, vous voyez, c'est que les autres sont inférieurs. C'est normal, c'est bon que les Anglais dominent le monde, parce que les Anglais sont blancs, etc. Bon. Et de la même manière, justification aussi d'ailleurs biologique pour le même discours aux États-Unis en fait, hein, les blancs à l'égard des noirs ou à l'égard des peuples. Assez amusant, assez terrible, les Allemands justifiaient leur politique à l'égard des juifs en disant aux Américains, non, c'est biologique, c'est pas religieux. Vous comprenez, on n'a pas de haine contre les juifs, c'est juste qu'on veut pas leur gène, grosso modo. Et les Américains ont accepté ça. Mmh. Les Américains ont dit non, mais en fait, c'est pas de l'antisémitisme, c'est juste une forme d'anti, alors je sais pas trop quoi.
Ben, ça rentrait dans leur logique, en fait.
Voilà. Et il disait, vous, Américains, vous avez le problème des Noirs. Et les Allemands disaient, et nous, les Allemands, on a le problème des Juifs. C'est pareil. Ségrégation, séparation, oppression. Mais pour eux, c'était la même chose. Ils disaient, on gère le problème comme vous gérez le vôtre. Et dans la pensée américaine, c'était reçu. C'est-à-dire que les Allemands étaient moins sévères que les Américains en matière de ségrégation. Aux États-Unis, pour les mariages mixtes, c'était interdit.
Ouais.
Et on disait, il suffit d'une goutte de sang noir pour qu'une personne soit noire. Donc même si vous aviez que, entre guillemets, un aïeul noir sur 16, ça suffit pour faire de vous un noir.
C'était déjà foutu.
Alors qu'en Allemagne, en Allemagne, on acceptait que l'un des deux parents...
Ouais.
Ils avaient une tolérance.
Non, donc c'est quand même pour montrer que les Américains, vraiment...
Plus jusqu'au boutiste, idéologue et complètement c'est toujours le fantasme de l'homme nouveau, l'homme pur. C'est ça qui est effrayant. Alors passons quelques années, la guerre se passe, Hitler perd, et puis là le monde découvre la réalité, oui. L'ingénierie, l'euthanasie, les gaz, les fours, tout ça. Donc forcément l'euthanasie a plus trop le vent en poupe. Et même plusieurs textes officiels donc, sont adoptés pour dénoncer l'euthanasie au niveau international, au niveau national. Le plus important, vous le rappelez, étant l'interdiction d'infliger la mort à quiconque intentionnellement posée par la Convention européenne et la Déclaration universelle. Alors comment les promoteurs de l'euthanasie vont se réinventer et vont rhabiller l'euthanasie pour que ça devienne un discours entendable et sexy?
Ouais. Alors ils n'ont pas abandonné. Donc les organisations...
Comment ils transforment en fait?
Ouais, on continue à exister, tout simplement, avec les mêmes cadres.
Sur les mêmes acteurs.
Les mêmes acteurs, les mêmes personnes.
C'est vrai qu'on voit ce que vous dites, ça, la VELS, l'ESA, oui. Tout ça, sont encore...
Ils existent toujours,
c'est ça qui est...
aujourd'hui, sauf qu'ils ont changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle EXIT, ou alors Right to Die, droit de mourir. Donc c'est comme la DMD en fait, droit de mourir dans la dignité. Donc les organisations existent, elles ont changé de nom pour évidemment cacher un peu leurs origines. Certaines personnes ont fait de la résistance, c'est-à-dire qu'encore après la guerre, ils disent non, il faut faire l'euthanasie forcée, ils ne voulaient pas lâcher le morceau. D'autres ont dit quand même, écoute, calme-toi, s'il te plaît, ne le dis pas trop fort, mais ils ont continué à le dire et à l'écrire. Ils ont dit, alors voilà, donc c'était avec un petit trou quand même dans les années 50, quand même, c'était pas le grand moment.
Ils se sont réorganisés.
Ils se sont réorganisés, mais surtout, ils ont réadapté leur discours et ce qui était majeur. Après des échecs dans les années 40 et 50 à faire passer des lois pour l'euthanasie des personnes handicapées, ce qui était majeur pour eux, c'est la révolution culturelle de l'individualisme et du libéralisme. Ça veut dire on ne va plus présenter l'euthanasie comme étant finalement une mesure coercitive de santé publique, où la société décide d'euthanasier 250 000 personnes, etc., comme c'était en Allemagne. On va dire que c'est une liberté. Donc c'est la liberté de mourir, right to die, le droit de mourir. C'est plus
le droit de tuer... Et remplacé par le droit de mourir.
Le droit de mourir. Donc on dit aux gens, c'est super. Ouais. Maintenant, vous avez le droit de mourir. Êtes handicapé, en fait. Vous êtes très malade. Avant, on vous laissait pas le choix. Enfin, on voulait ne pas vous laisser le choix. Maintenant, on vous laisse le choix et on vous incite. Comment ça s'est passé? D'abord, avec l'avortement. L'avortement, au départ, c'est pareil, politique, néo-malthusienne, eugéniste. Contrôle des naissances, limiter les naissances chez les pauvres, éviter le différentiel démographique entre classe supérieure et classe inférieure. Mmh. Et donc, on fait plein de mesures, stérilisation, avortement, sur ces gens-là. Ensuite, dans les années après-guerre, on promeut l'avortement pour des raisons d'ordre démographique, essentiellement. Ça veut dire croissance démographique dans le monde en développement. L'avortement est vu comme étant une technique efficace de contrôle des naissances et de régulation des naissances. Et là, les Américains disent... On va changer de discours, et là c'est Berelson qui est un homme qui est spécialiste de la manipulation des foules, un psychologue américain qui travaille pour le département d'État, et qui dit on va dire que c'est une liberté pour les femmes. Et on va présenter ça de façon positive. Il faut changer l'approche. Regardez, c'est une liberté. Vous êtes libre de choisir l'espacement de vos naissances, le nombre d'enfants, etc. La maternité, c'est une oppression, c'est un esclavage, libérez-vous, etc. Et donc, une approche de sociologie, d'ingénierie sociale, pour faire passer l'avortement comme une liberté. Et ça a marché. L'avortement a eu deux leçons. Un, faire passer une mesure coercitive en une liberté, ça marche, marche encore mieux. Deux, l'avortement a réglé le problème de l'euthanasie des nouveau-nés. Parce que tous les enfants handicapés à la naissance, enfin, la plupart, effectivement, sont déjà supprimés. L'avortement eugénique, c'est une euthanasie eugénique prénatale, parfois juste natale. Donc cette question-là a été réglée.
Donc c'est une sorte de cran, en fait. On met un pied dans la porte.
Oui.
Ça, c'est autorisé. En fait, c'est légal.
C'était une revendication historique des mouvements de l'euthanasie. C'est euthanasier les nouveau-nés handicapés. Et donc là, en fait, on y est arrivé par l'avortement eugénique. C'est déjà fait. Le problème est réglé. Ce qui reste comme problème, c'est le suicide volontaire des surhommes qui ne veulent pas se voir souffrir, vieillir, mourir, et les débiles, les personnes malades, handicapées. Donc là, c'est les deux cas qui restent. Et ces deux cas-là, on les a présentés, un, le suicide comme la liberté, et ensuite, les débiles, on n'osait pas trop en parler parce que c'était difficile de pouvoir justifier cela. Alors, le suicide a été adopté, d'abord légalisé dans différents pays, dans les années 70, c'est devenu légal, possible. Par contre, l'euthanasie des personnes handicapées, là, on n'en parlait pas tellement, parce qu'il fallait, définir les critères de l'euthanasie. Donc, c'est la situation. Aujourd'hui, on se retrouve devant cette loi qui est présentée à l'Assemblée nationale, qui a ses deux volets, on dit bien suicide assisté et euthanasie, et les deux sont là.
Alors, est-ce que le côté progrès médical, parce qu'il y a quand même entre post-45 après-guerre jusqu'à, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un développement et un progrès médical très important, quelle l'influence a joué sur l'évolution du discours ou sur le lien avec l'euthanasie? A priori, on soigne mieux, donc on vieillit plus tard, donc il y a plus de vieux. Donc,
C'est ça. Alors effectivement, c'est un élément important. Notamment, ça a provoqué les soins palliatifs. Donc après-guerre, progrès médical, on soigne mieux, on vit plus longtemps. Donc effectivement, il y a aussi la question de la réanimation qui apparaît. On a du mal à définir les frontières de la vie et de la mort. C'est plus aussi simple. Dire autrefois, à la limite, on mourait, c'était plus facile. On savait quand est-ce que ça se passait, ça durait... Alors que là, réanimation, bon, est-ce qu'il faut réanimer? Quand est-ce qu'il faut vraiment soigner? Est-ce que c'est justifié? Et donc, il y a eu un vrai flou dans les années 50, les années 40, sur cette période, et un flou qui est resté. À l'époque, on a pu comprendre qu'il y ait une demande plus forte, une inquiétude de ne pouvoir souffrir à l'hôpital. Et c'est le pape Pie XII qui a vraiment eu un rôle important à l'époque. Il a publié un texte sur les soins disproportionnés. C'est-à-dire qu'il a déclaré, le pape, qu'on pouvait donner de la morphine à une personne qui souffre, même si ça a pour effet d'accélérer la mort, dès lors que ce n'est pas le but premier. Dès lors que le but premier est de soulager les souffrances, on peut faire ça. Et donc ça a ouvert en fait, la voie aux soins palliatifs. Et ça, c'était en 1952. Ça a été un élément majeur. Les mouvements de promotion de l'euthanasie se sont divisés à ce moment-là. Certains estimaient que leur raison d'être avait disparu, puisqu'on pouvait utiliser les narcotiques et la morphine pour soulager la souffrance, quitte à accélérer la mort. Et les autres ont dit, au contraire, non, les soins palliatifs, c'est plutôt un problème, parce que ça vient scier la branche, la cause. Et donc, il faut au contraire maintenir la demande d'euthanasie volontaire.
Rémi Carlu.
Peut-être que maintenant, vous pourrez parler de l'ADMD, peut-être, puisque c'est le moment cette pensée euthanasique s'implante vraiment en France avec la création d'une association, d'un lobby officiel, d'une certaine manière. Donc, est-ce que vous pourrez revenir sur la création de cette association qui continue d'œuvrer aujourd'hui, qui est derrière toutes les lois
Association discutées. Pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD. Voilà. Oui, ça a été créé quand, l'ADMD?
Ça a été créé, je crois que c'était en 1980 ou 78, j'avoue. Donc ça a été créé par un Américain, donc c'est pas un hasard. Michel Landa, un Américain qui était de retour d'un congrès à Londres, un congrès de mouvement euthanasiste. À l'époque, existait une fédération internationale, qui existe probablement toujours, des associations pour le droit de mourir dans la dignité. Il n'y avait pas de branche française. Cette fédération organisait des rassemblements réguliers. Et là, Michel Landa vit à Paris, il est américain, et il décide de fonder une association. Il reprend le nom de l'organisation américaine, Association pour le droit de mourir, alors il a été dans la dignité. Il reprend le logo de l'association britannique, Exit, à savoir un triangle formé par une chaîne brisée, qui est la chaîne de la vie brisée par la mort. À l'emplacement de la brisure, il y a le logo de la DMD. Et il reprend le programme des associations euthanasistes américaines et anglaises, à savoir la demande de la reconnaissance des directives, notamment anticipées, la diffusion de la littérature aussi, la diffusion du fameux livre Euthanasie mode d'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre. Voilà. Et donc, en fait, simplement une application en France de ce qui existe.
Ouais, c'est une traduction, quoi.
C'est ça.
Okay, ils font une... Et donc là, c'est donc, création 1980. Ils se positionnent comment au départ? Est-ce que c'est un combat qui va tout de suite devenir un combat politique et donc ils vont essayer de se taper l'incrus, si je puis dire, dans le législatif?
Oui.
En influençant le législateur, en faisant du vrai lobbying, ou ça reste uniquement médiatique avec, comme beaucoup d'associations des années 80, avec des happenings, c'est-à-dire des... Il oui. faut que je traduise ça pour nos auditeurs de Radio Courtoisie.
Des
événements qui sont là pour créer justement l'événement et pour que tout le monde en parle. Comment, quel est leur mode d'emploi?
En fait, leur mode d'emploi, au départ, donc, c'est une importation. C'est une importation anglo-saxonne, soutenue en France par le milieu franc-maçon, encore une fois, Caillavé, Pierre Simon, on pourra en reparler, et qui vraiment agit par le sommet. Ça veut dire que leur mode d'action, premier, c'est de traduire et de publier dans la presse française des tribunes signées par des grands responsables du mouvement euthanasiste américain ou anglais, signées par des prix Nobel. Donc ils veulent influencer l'opinion en partant du sommet, avec des liens étroits avec à l'époque Henri Caillavé, un sénateur très connu et un pilier de la franc-maçonnerie en France, et parlementaire. Et donc, ils veulent l'influence politique, l'influence médiatique. C'est par le sommet, c'est les années 80, c'est les années Mitterrand en plus.
Ouais.
Donc, c'est porteur, on va dire, comme contexte. Il n'y a pas encore de réel enracinement territorial, mais ça va venir assez vite. Surtout que la franc-maçonnerie va donner à ce mouvement quand même des relais dans les régions, des cadres, la possibilité de s'implanter. Et donc, assez rapidement quand même, ils ont une revue, ils cherchent des adhérents, ils diffusent des modes d'emploi pour le suicide. C'est quand même une de leurs activités principales, comment se suicider. Et ils ont un problème fréquent, c'est que leurs cadres se suicident les uns après les autres.
C'est vrai que vous avez cette phrase très drôle, cette vague de suicides, parce que la plupart des fondateurs de l'NDMD furent conséquents et se suicidèrent, au moins ils sont raccord, mais cette vague de suicides mit d'ailleurs en péril l'association, au point que le bulletin publie un article intitulé « Il nous faut des jeunes ».
C'est génial. Mais, bon,
j'avoue que j'ai ri en lisant dans votre étude ce passage, mais au moins ils sont, voilà, ils appliquent.
Ils sont très, voilà, ils appliquent. Alors, ils sont en fait dans les notices nécrologiques, ils sont d'un côté désolés et ils disent oui, là notre ami, en même temps ils sont bien obligés d'admettre que c'est bien, mais en même temps ça les embête beaucoup et c'était pour eux une vague, et donc c'est leur activité. Ils veulent à l'époque avec Odette Thibault là qui est une radicale terrible, ils veulent créer des maisons d'euthanasie. Alors à la manière de Margaret Sanger qui avait créé des cliniques, eux se disent on va forcer la main du législateur, on va faire des maisons, des mouroirs, quoi.
Ouais.
Et on va euthanasier les gens. Et ensuite, on va provoquer le législateur. Donc, il y a cette approche un peu
ça existe, on va donc voilà. Fait, comme c'est le ça. Même discours avec l'IVG, il y a les faiseuses d'anges, donc
c'est
on légalise.
Ça. On le fait,
on va faire ça proprement.
On fait ça proprement, et on impose le cas, et on fait un truc médiatique. Voilà. Alors, la DMD soutient officiellement, ce n'est qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, que la DMD a renoncé à soutenir l'euthanasie forcée. En 1988, il y a eu un débat dans le conseil d'administration qui est évoqué dans les bulletins de la DMD, qui sont disponibles à la BNF, où ils disent Bon, est-ce qu'on va mettre dans nos statuts quand même qu'on est contre l'euthanasie forcée ? Gros débat. Le bulletin suivant, on a préféré ne pas en parler, rien n'a été adopté. Donc finalement, ils ont passé, voilà. Et ce n'est que plus tard, bien plus tard, que la DMD a vraiment entériné officiellement une position de refus de l'euthanasie forcée.
Donc, pour quelle raison ? Stratégique ou parce qu'ils sont vraiment convaincus que c'est un meurtre et que c'est pas très bien ?
Alors, je ne sais pas, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les années qui ont suivi, la DMD a systématiquement soutenu des personnes comme, c'était Bonne Maison, les médecins, vous savez, les médecins qui tuent.
Oui, bien sûr.
Sans
prévenir, sans demander, sans qui pratiquaient l'euthanasie.
Voilà, et la DMD les a soutenus à plusieurs occasions, alors que c'était très clairement des euthanasies forcées sur des personnes âgées. Même l'un des cas, c'était une personne âgée qui avait eu le col du fémur cassé ou la clavicule, enfin, quelque chose d'ordinaire, on va dire. Et la DMD a soutenu ces personnes.
C'est ce qui est assez effrayant. Alors, il y a eu, à partir de quand, il bascule dans, vous savez, le témoignage. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est dès qu'il y a un sujet qui arrive sur la table, là, par exemple, l'euthanasie allait revenir, et au moment du Sénat, et là, on découvre je crois que c'est un journaliste, il me semble, qui, après une opération ratée, souffre affreusement et va dire qu'il va aller en Suisse euthanasier. Et à chaque fois, on découvre des témoignages comme ça. Une dame qui dit, une vieille dame, quoi, pas vieille d'ailleurs, qui dit « Ouais, dans 10 ans, je vais m'euthanasier. » Il y a quand même ce côté qu'on trouve que chez eux, j'ai le sentiment, et peut-être que c'est un truc qui est très calculé, qui vient des Américains ou pire des Anglais. On prend un exemple, on l'affiche en disant « Regardez comme elle souffre, et donc il faut l'euthanasier », ou « Regardez comme elle est libre, elle a décidé de s'euthanasier. »
L'avantage étant, juste pardon de vous couper, qu'il n'y a jamais de témoignage de quelqu'un qui se serait euthanasié et qui regrette.
C'est ça. Et bien vu. Je pense que c'est, en fait, la DMD n'a aucun intérêt, enfin, les militants de l'euthanasie n'ont aucun intérêt à entrer dans le fond du sujet. À discuter sur le... Alors, par exemple, comment ça marche l'euthanasie ? Est-ce que vous avez vu des parlementaires parler d'une étude sur les effets sur le corps de la substance létale ? Personne ne veut savoir ce que ça provoque, comment on meurt. C'est pas si doux. Aux États-Unis, la piqûre pour la peine de mort a été interdite dans certains États parce que ça ferait... ce serait trop douloureux.
C'est la même piqûre qu'on utilise.
C'est la même piqûre que pour l'exécution capitale, la peine capitale aux États-Unis. Selon des médecins américains qui ont procédé à des autopsies, cette piqûre provoque en fait, je sais pas trop quoi, dans les poumons. Les poumons se remplissent d'eau en fait, et on meurt en fait
étouffé.
Ouais. Alors ça, il faut parler de ça. Mais ça, c'est les grands discours, c'est tellement facile. Mais parlons, d'accord, concrètement, pourquoi est-ce que la loi prévoit que le médecin doit rester à proximité de la personne qui pratique le suicide assisté? Il faut que le médecin ait l'œil, puisse la voir. Pourquoi ? C'est parce que ça peut mal se passer. Parlons de ça. Quels sont les effets secondaires ? Quels sont les risques ? Il y a des risques. Pourquoi est-ce qu'on entend parler de cas où la personne n'est pas morte, mais qu'il a fallu plus ou moins l'achever en l'étouffant ? Il y a un cas comme ça.
Oui, l'étouffer à l'oreiller.
À l'oreiller.
Finir à l'oreiller.
Donc parlons de la réalité. Et donc la DMD, avec ses témoignages, mais c'est que du sentiment. Ça neutralise la réflexion. Et puis ça c'est pour manipuler l'opinion en court-circuitant la réflexion.
Alors revenons, donc on a commencé à en parler justement de l'actualité, des choses très concrètes. Donc vous l'avez dit, en Belgique ce sont des milliers d'euthanasies, en Québec, alors que la loi est arrivée plus tardivement à dépasser la Belgique. Quelles sont aujourd'hui les dérives, si on peut parler de dérives, de l'euthanasie ? Est-ce qu'on a des euthanasies forcées ? Est-ce qu'on a des euthanasies pour des raisons financières, parce qu'ils sont pauvres ? Est-ce qu'on a des euthanasies de jeunes enfants ? Qu'est-ce qu'on peut constater comme cas, et pas un cas particulier, un cas qui représente malheureusement de plus en plus souvent ?
Je dirais... Le cas dont on entend le plus parler, c'est celui de la tante ou de l'oncle qui vont bien, mais qui en ont marre de vivre. Et un jour, on vous annonce que... aujourd'hui, déjà, ce qu'on entend, c'est un ami qui m'appelle, il me dit « Voilà, ma tante part en Belgique la semaine prochaine. Qu'est-ce que je peux faire ?» Comment va-t-elle ? Elle va bien, mais juste qu'elle en a marre. Donc, c'est beaucoup le cas de la personne qui en a marre, et qui ne veut plus vivre, parce qu'elle estime qu'elle a fait son temps, parce que c'est la solitude, parce que voilà, parce que la vie n'est plus intéressante. Et donc c'est ça, je dirais, le cas qu'on voit le plus. Il faut bien comprendre que la loi telle qu'elle est, la proposition de loi telle qu'elle est rédigée en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, n'est pas limitée aux personnes qui sont en fin de vie, qui sont condamnées à une mort proche. C'est un texte qui permet le suicide, principalement, et l'euthanasie, pour des personnes qui simplement estiment ne plus vouloir vivre, que leur subir une souffrance psychologique insupportable, dont eux-mêmes sont juges. Donc, je pense que c'est ça le. Alors ensuite, c'est ça, je pense, la principale dérive, on va dire, de cette loi. C'est le fait de modifier dans la société notre propre conception de la vie. Si vous avez, comme au Québec, 10% des gens qui meurent par euthanasie, par mort volontaire, eh bien, en fait, c'est toute la société qui a modifié son rapport à la mort. Ça veut dire que vous vivrez avec une approche utilitariste, une évaluation constante de votre bénéfice à vivre. Et vous n'avez plus cette forme d'abandon à la vie qu'on accepte et à laquelle on fait face. Vous avez cette approche, non, bah, la vie, finalement, je la gère. Et j'évalue. Et puis, si jamais j'en ai marre, ou si jamais je suis malade, ou si jamais j'ai le sentiment d'être une charge pour mes enfants, bien sûr, j'abrégerai. C'est ça la vraie les vraies conséquences de ce texte.
Alors, je parlais des évaluations de la vie. Alors, on a vu. Évidemment, par humanisme, des mutuelles se mettent au garde à vous. Alors, si on regarde, ça remonte un peu parce que vous savez, Thierry Baudet, on a découvert le nom de ce monsieur parce qu'il voulait, il était potentiellement candidat pour prendre la tête de l'Union de la gauche. Et puis, ses camarades du PS ont fait des jeux de mots avec Baudet en disant, bon, voilà, qu'il valait pas le coup. Et donc, il a redisparu. Mais donc, lui, il était patron des fédérations des mutuelles de France après être passé pour la mutuelle générale de l'éducation. Puis, il a été nommé au CESE qui est a accueilli, je vous rappelle, chers auditeurs, ce fameux débat avec des citoyens tirés au sort et qui proposait même que les mutuelles, très charitablement, soient en avant-garde des euthanasies, quoi, pour montrer que ça va bien. Et donc, quel est le rôle vraiment des mutuelles? Parce que, par exemple, la Mutuelle Générale de l'Éducation proposé des amendements. On a vu alors, je ne sais pas s'il est encore son président, mais M. Savignac, qui expliquait que les Français étaient pour... avec comme preuve qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient se suicider, donc c'est bien la preuve qu'ils étaient pour. Est-ce qu'il y a des vraies raisons qui sont des raisons financières, des raisons de budget?
Alors d'abord, il y a des raisons philosophiques, souvent. Les mutuelles, comme vous savez, ont souvent un parti pris idéologique. J'ai, moi, le souvenir très clair que Pierre Simon, par exemple, l'un des fondateurs de la DMD, qui était... médecin, gynécologue, aussi fondateur du planning familial en France et promoteur des associations pour les mères porteuses, pour la GPA, donc il faisait un peu l'ensemble. Lorsqu'il a créé les réseaux de promotion de l'avortement en France, il s'est appuyé non seulement sur la franc-maçonnerie, il était grand maître, mais aussi sur les mutuelles. Les mutuelles sont un peu un réservoir d'argent pour une certaine gauche. Et les mutuelles ont servi, on va dire, au plan idéologique et financier, la cause. Parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a des idéologues qui sont de gauche et qui adhèrent à cette pensée. Donc je crois qu'au départ, moi ce que j'ai pu voir, c'est que le soutien idéologique des mutuelles, il est d'abord venu au plan des idées et au plan financier. Et aujourd'hui, le fait qu'ils... promeuvent l'euthanasie, ça fera faire des économies considérables. Mais ça vient que dans, second temps.
D'accord. Rémi, Carlu.
Et moi, une question, là, je m'adresse aux juristes que vous êtes. Comment, dans le droit, va-t-on faire pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté tout en conservant l'idée de non-assistance à personne en danger, du fait que quelqu'un ne peut pas contrevenir parfois à ses intérêts lors de vente d'un bien immobilier, etc. Comment ces deux éléments qui paraissent contradictoires du point de vue extérieur, peut-on les faire
J'en rajoute un troisième, le délai d'entrave. Parce que si le délai d'entrave arrive, quelqu'un veut jeter d'un pont, est-ce que vous pouvez tomber pour délit d'entrave puisque vous l'avez secouru?
Alors, le délit d'entrave, c'est que dans le cadre du suicide assisté et de l'euthanasie. Donc, il faut que ce soit un cadre plus ou moins médical. Donc, si quelqu'un veut se jeter du pont, normalement, vous conservez le devoir de lui porter secours. D'accord. C'est assez incohérent. Sauf si, voilà, donc c'est la méthode qui fait la différence. Donc tout ça devra se trancher devant le juge, en cas de différent. Mais effectivement, on arrive à une confusion, l'incitation au suicide, comment maintenir une interdiction de l'incitation au suicide, alors même que les députés ont refusé l'adoption d'un amendement symétrique au délit d'entrave, qui est l'incitation au suicide assisté, l'euthanasie.
Alors, il nous reste une minute. Je vous pose trois questions. Que répondre à un militant euthanasie? C'est les trois questions qu'on retrouve tout le temps. Donc,
oui.
Comme dirait le camarade Charles Alloncle en commission, question courte, réponse courte. c'est ma dignité.
Ne pas désespérer de la vie.
La vie n'est pas sacrée.
Vous l'avez reçue.
Je veux mettre fin à ma souffrance. Je souffre affreusement et je veux mettre fin à ma souffrance ou la souffrance d'un proche.
Beaucoup de gens, on est là pour vous aider.
La majorité des Français sont pour.
C'est faux.
Bon, et voilà. Alors, chers auditeurs, je vous recommande évidemment de... Alors, comment on trouve votre enquête?
Sur le site de l'ECJ. Voilà.
Site de l'ECJ. Je rappelle, le Centre Européen pour le Droit et la Justice, mais c'est en version anglaise. Moi, j'ai traduit en français.
ECJ.org.
Enquête historique pour comprendre l'origine et la pensée des mouvements euthanasistes. Donc, c'est passionnant, c'est effrayant. Et je pense que quand vous croisez un militant euthanasiste, vous lui rappelez les origines. Je pense que pour le coup, les heures sombres, les bruits de bottes sont pas très loin. Et c'est issu de votre prochain ouvrage qui sortira dans quelques semaines, peut-être en avril, peut-être un peu plus tard, La Conjuration contre la vie. Grégoire Pupin, merci infiniment. Chers auditeurs, une petite pause et on va parler cinéma.